m'étonnes avec le temps qu'il fait.
Vous voulez boire un verre?
Volontiers.
Oh Adrien, tu me sers deux pastis.
C'est très chaud, non?
Pierre transpire de partout.
Tu gourdes?
Et alors, vous voulez pas prendre le pastis?
L'apéro, le rendez-vous estival de Radio Campus Paris.
Je pense qu'on peut démarrer l'apéro.
Flibustier, corsaire, boucanier, forban, margoulin. Il existe bien des mots pour désigner les pirates. Ces pirates légendaires qui nous ont tous fait fantasmer. Qui n'a pas rêvé, gamin, d'embarquer sur un trois mâts pour sillonner les mers, accumuler trésors, préférer le rhum à l'eau et connaître la grande aventure? Si ce que je viens d'évoquer ne fait pas naître quelques étoiles au fond des yeux, félicitations, vous n'êtes pas digne d'intérêt et vos samedis soirs doivent être des plus ennuyeux. Car après tout, n'est-ce pas pour se rapprocher de ces héros des mers que l'on se bourre la gueule, que l'on s'en remet aux déesses houblonnées et autres sublimations de la canne à sucre, que l'on embrasse le malt et qu'on chérit le raisin? Je me suis perdu là, non? On disait quoi? Ah oui, les pirates! Même si voir des pirates peut parfois être mauvais signe, que ce soit un riche bateau marchand dans les Caraïbes qui comprend qu'il va être allégé d'ici quelques minutes, ou un gamin à l'hôpital qui voit débarquer Johnny Depp en Jack Sparrow et qui comprend que plutôt que passer Noël en famille, il va trépasser, j'aime les pirates malgré tout. Je les aime tellement que dans ma grande haine de l'espèce humaine, je rêve d'une télé-réalité où on foute les candidats sur différents bateaux, qu'on les fournisse en sabre, couteau, filet, mousquet et canon, qu'on leur donne une carte, qu'on leur dise « Hey, il y a un trésor pas dégueulasse à trouver » et qu'on les laisse se démerder et s'étriper, un espèce de battle royale façon pirate. Je crois que pour un tel programme, je rebrancherai ma télé.
Pas une bière.
On vient de passer un mois à picoler, on a fait que ça.
Et on va continuer.
Et on va continuer.
L'apéro jusqu'à 20h sur le 93.9.
Et comme j'aime les pirates, que les pirates aiment l'alcool, que j'aime l'alcool et que l'apéro c'est un des moments de la journée où on peut boire sans culpabiliser, il fallait faire un apéro sur les pirates. Pour en parler, nous serons ce soir avec deux capitaines, capitaine Charlie.
Bonsoir.
Et capitaine Sax.
Bonsoir.
Donc, vous vous apprêtez à sortir le deuxième tome du Trésor de Levasseur, une épopée sur un des plus grands casses de l'histoire, par un des mecs les plus classes de l'histoire, tout ça pour une question d'amour qui s'accompagne en plus de la plus grande chasse au trésor de France. Maison close, ma mère m'interdit de dire d'autres mots, à quel moment c'est pas la classe? Donc bah, bonsoir, vous êtes les auteurs et concepteurs de cette fabuleuse aventure, tant pour les lecteurs que pour ceux qui participent à la chasse. Et comme j'ai déjà beaucoup parlé en ce début d'émission, est-ce que vous pouvez nous présenter très brièvement le concept derrière le trésor de Levasseur?
Alors, bonsoir, merci de nous inviter, c'est super. Le concept derrière, on a une trilogie qui raconte l'âge d'or de la piraterie, tels que les rois ont refusé que ça soit consigné dans l'histoire, en fait. Hein. Les choses se sont passées de manière légèrement différente. Mmh. Et dans cette trilogie, on s'est dit, il y a quelques années, on va créer une véritable chasse au trésor. On va insérer des énigmes dans cette trilogie. Et en amont, nous, on va planquer les trésors un peu partout en France, histoire de permettre aux lecteurs de vivre une véritable aventure et de s'immerger complètement à l'intérieur.
Et alors, combien est-ce qu'il y a de trésors et qu'est-ce qu'on a si on les trouve?
Alors, au sein de la trilogie, on a 7 trésors qui sont cachés, qui sont trouvables avec 7 énigmes réparties dans toute la trilogie. Du coup, quand on tombe sur un trésor, après des mois de recherche, on se retrouve avec un coffre en bois contenant un crâne en bronze et 2 billets d'avion pour la Réunion. À ça s'ajoute aussi, à la fin de la chasse, une part du butin, c'est-à-dire un pot commun qu'on met depuis le début de la chasse, pour avoir un pactole et se le répartir en fonction des gagnants.
D'accord, et donc c'est au prorata du nombre de crânes trouvés?
C'est ça, parce que si on a une équipe qui trouve 2 crânes, elle aura 2 parts du butin du coup.
C'est logique. Et donc, comment on se rencontre et on se retrouve et on se dit « Tiens, je fais rien demain matin, est-ce qu'on n'organiserait pas la plus grande chasse au trésor de France ?»
En fait, on s'est rencontrés dans une école de cinéma, de réalisation, et on s'est rencontrés sur des repérages. On s'est rendu compte qu'on était bons tous les deux pour les repérages, on savait comment les faire ensemble.
On avait les mêmes idées à la con et on avait les mêmes anticipations par rapport aux problèmes qui pouvaient survenir.
Okay. Donc on avait une manière de fonctionner comme ça qui nous a amené après à faire plein de bivouacs, à faire de l'urbex, à se balader partout. On a toujours beaucoup voyagé, chacun de notre côté et puis après ensemble. Mmh. Et un jour, on se retrouve sur une plage martiniquaise complètement déserte où on kiffe notre race depuis une semaine, clairement. Et on doit reprendre l'avion et on se dit mais merde quoi, on est en train de vivre un moment exceptionnel et comment on fait pour fixer ce moment dans le temps. Et moi je suis en train de travailler sur les bouquins de Levasseur à cette époque et puis on en parle, on se dit on crée une chasse au trésor.
D'accord, donc avant il y avait déjà le roman était en cours, tu avais déjà commencé à l'écrire.
Ça fait 15 ans que j'écris sur Levasseur.
D'accord.
Très très longue histoire.
Parce que donc c'est ce que j'allais vous demander, le premier roman sort en 2015, le deuxième sort demain.
C'est ça.
Mais, et le troisième sort on ne sait pas encore quand. Tous les crânes ne peuvent pas être trouvés avec un seul tome ou avec deux tomes. Il y en a qui ne seront trouvables qu'une fois le troisième tome sorti. Donc, ce qui veut dire que tous les crânes sont quand même déjà...
Tout est planqué.
Tout est planqué.
Ouais.
C'est planqué depuis combien de temps? Vous avez mis combien de temps dans l'élaboration avant de pouvoir vous dire « Ok, on est prêt, on peut lancer le premier roman ».
Ah.
Ça a été 3-4 ans avant d'être sûr de nous. Pardon, 3-4 ans avant d'être complètement sûr de nous. À pouvoir vraiment lancer le premier roman. Mais d'ailleurs, ne serait-ce que dans la démarche de communication entre le premier roman et celui-ci, c'est vrai qu'il y a deux mondes. Sur le premier, on venait de terminer de tout cacher pour le premier. Il nous en restait quelques-uns derniers à planquer pour le deuxième et le troisième. Parce que pour le deuxième aussi, c'était déjà quasiment tout verrouillé. Mais on était quand même dans une démarche de prudence parce qu'on disait si on communique trop et qu'on se retrouve avec des gens qui nous pistent alors qu'on est en train de planquer le dernier, on est mal.
Ouais.
Maintenant, on est serein.
D'accord. Mais donc les derniers ont été planqués entre la sortie du premier et la sortie du deuxième, si j'ai bien compris.
Oui, sur la peu de temps après la sortie du premier, en fait.
Et alors, comment vous... de quoi vous êtes inspiré pour faire les énigmes? Elles se composent de quoi ces énigmes? C'est des rébus, c'est des textes à déchiffrer, c'est...
Alors, dans l'intérêt du roman, c'est que ça nous fournit une histoire de base, en tout cas pour la chasse au trésor. Et ce qui est super intéressant, c'est que du coup, avec la masse de textes qu'on a, on peut, au sein de tout ça, pouvoir disséminer beaucoup de choses. Mmh. En ajout... de Sade, au sein du livre, on a des sets de visuels, donc qui sont des cartes qui retracent du coup les aventures des personnages par rapport au chapitre, où est-ce qu'ils sont passés, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et donc du coup, au sein de ces visuels aussi, ça permet aussi de cacher d'autres choses. Et en dernier lieu, puisque Charlie Barbier est avant tout scénariste, il aime beaucoup la mise en scène et avoir des rebondissements là-dedans, et notamment de mettre en scène. Et donc, beaucoup de moments sont rythmés par de la musique. Et donc, on peut insérer avec ça des partitions qui permettent de coder encore autre chose.
Donc, il y a vraiment plusieurs formes d'énigmes. C'est caché. C'est pour ça qu'on ne répond pas de manière claire. C'est parce qu'en fait, elles sont planquées absolument toutes. Partout et que ça fait partie du jeu.
D'accord, c'est pas on lit et puis la page énigme numéro.
Voilà. Non, c'est pas aller faire ceci.
Non, pas il y a un gros bloc, c'est que c'est plein de petits bouts. Voilà.
Ça gêne pas la lecture non plus. C'est-à-dire que si ça s'insère dans le texte, c'est vraiment diégétisé. De sorte à ce que un lecteur qui veut pas chasser soit pas gêné et qu'un lecteur qui veuille chasser puisse passer à côté.
Et
c'est l'idée.
Ça, c'est le plus intéressant.
C'est l'idée. Mais si, s'il chasse suffisamment longtemps, il finira par retomber
donc,
dessus.
Du coup, tu peux très bien te retrouver avec des éléments épars, à droite à gauche, façon pièce de puzzle. Le but du chasseur, c'est laquelle va avec celle-ci, laquelle va avec celle-là, comment reformer en gros l'énigme. Et du coup, comment je la décode ensuite?
Donc, c'est un grand puzzle avec des codes, comme le Templier par exemple, avec des maths, avec de la géométrie, avec de la géographie, avec de l'histoire. C'est un grand casse-tête bordélique.
D'accord, donc concrètement, si on n'a pas fait une prépa ou Sciences Po, on est foutu. Enfin, si on n'a pas Sciences Po, mais HEC ou Polytechnique, on est
oula,
foutu.
Non, pas du tout.
Non, mais concrètement, c'est vrai que nous, on a saigné des yeux sur des équations, si je peux le dire. On a saigné des yeux plus d'une fois et il y a des trucs qu'on a refait.
25 000 fois facilement pour bien vérifier que tout soit exactement qu'on avait prévu.
Rien que le livre, si vous voulez, pour vous donner un exemple, rien que le texte en lui-même, d'un point de vue strictement littéraire, il part sur 13 versions. Et une version, je réécris tout.
D'accord.
Mot à mot. C'est un travail titanesque. Donc pour des énigmes, je vais pas dire que c'est pire, mais on est à peu près au même niveau.
On peut imaginer que c'est pire. Et alors, du coup, je me suis pas mal renseigné. Je suis allé sur le site, sur votre chaîne YouTube. Mm-hmm. Et il apparaît que vous donnez, mine de rien, pas mal d'indices à droite à gauche, que ce soit dans des vidéos, que ce soit dans les carnets de route. Et alors, je me demandais, est-ce que les trésors, on peut les trouver uniquement à la base, à partir des livres? C'est-à-dire, j'ai décidé de ne pas m'intéresser à ce qu'il y a autour, à tout l'aspect cross-média. Je veux juste trouver le trésor avec mes trois bouquins quand le troisième sera sorti. Est-ce que c'est possible, mais beaucoup plus dur, ou est-ce que non, c'est inenvisageable? Il faut quand même, je dirais, appartenir à la communauté suivre de près ce que vous dites et les petits indices que vous glanez à droite à gauche.
On pense très sincèrement qu'avoir des indices, c'est toujours bon à prendre. Ça permet de mettre sur une piste, de la confirmer ou de l'infirmer. Maintenant, effectivement, toute la base de la chasse au trésor, c'est dans le texte, vraiment dans le livre. Après, tout ce qui est d'à côté, on peut avoir des indices, effectivement, dans ce qui est des vidéos, tout ça. Le site fait partie de la chasse, par contre. C'est vraiment au cœur de la chasse aussi. Tout ce qui est vidéo, médias, on cache, nous, à l'intérieur de ça, des indices, des références. Par contre, effectivement, voilà, c'est pas nécessairement...
Tout est dans le livre. Vous achetez le tome 1, le tome 2, vous bûchez dessus en vous enfermant dans la cave, sans connexion internet, sans rien. Vous allez créer des pistes. Vous allez commencer à avoir des hypothèses, vous allez avoir des choses. Après, c'est dommage. C'est pour ça que dès les premières pages, on appelle les chasseurs à mutualiser les efforts et à chasser en meute, à fédérer, à créer des équipages, parce que tout seul avec vos pistes, de notre point de vue, vous n'irez pas plus loin qu'au bout de la rue. Après, tout peut arriver. Le trésor numéro 2 a été trouvé par des mecs qui sont sortis de nulle part.
Ouais. Personne n'en a entendu parler. Ils sont arrivés, ils ont fait « Hey, moi j'ai trouvé ça !»
Et boum. Et
ils n'en avaient parlé à strictement personne au niveau de la communauté, quoi.
D'accord, parce que oui, j'ai l'impression qu'il y a une communauté qui est très forte, avec laquelle vous interréagissez énormément.
On essaie.
Comment vous avez réussi à la fédérer dès la sortie du premier roman? Il y a une grosse communauté de chasseurs de trésors en France, où c'est vraiment des gens qui sont venus...
Il y a le geocaching déjà. Hein.
Oui.
Il y en a beaucoup. Le geocaching, c'est un...
C'est un espèce de jeu urbain qui justement met des petits trésors. Il y en a au bout de la rue, il y en a peut-être un là-bas et un de l'autre côté de l'immeuble. Et en fait, voilà, ça permet d'avoir des petites énigmes locales et de trouver un petit trésor. Donc si on s'y met un après-midi, on peut en faire 25, 30, 35, d'accord, dans Paris par exemple. Mais il y en a absolument partout. Et
ça s'est très popularisé déjà.
Il y en a beaucoup parce que c'est très accessible. Donc ça, c'est assez génial. Maintenant, effectivement, ça nous a apporté un petit peu de chasseurs de trésors. Maintenant, là où on peut arriver à se différencier par rapport à ça, c'est que le gain déjà est un peu plus conséquent. Et en plus, les lieux dans lesquels sont enterrés les trésors, ou en tout cas cachés les trésors, sont d'une ambiance, ont une espèce de feeling qui laisse pas du tout...
On cherche des paysages vraiment magnifiques et particuliers, et on fait participer la communauté en filmant ce qu'on fait, ce qui en fait n'a jamais eu lieu non plus dans des chasses au trésor. Les mecs planquent, créent leurs énigmes, et ensuite laissent à disposition les énigmes, et puis débrouillez-vous, et je vous donne les indices qu'il faut. Nous, on est parti d'un autre point de vue. On s'est dit, on va tout filmer, on va essayer de cacher le plus d'informations possible quand on filme, mais en même temps en donner aussi. Ouais. On va essayer de faire partager ce qu'on fait, on va leur montrer comment on l'a fait et essayer de leur donner envie de le faire aussi. S'ils ne trouvent pas le trésor à la fin, c'est pas grave. Ça se trouve, il était 4 mètres à gauche, tu reviendras creuser, Coco. Par contre, ce qui est vraiment sympa, au final, c'est quand même la balade et le parcours que tu as fait. Surtout si le parcours, tu pouvais le faire de 30 façons différentes et tu l'as sûrement fait 30 façons différentes avec tes parents. Mais là, avec ce qu'on t'a amené, tu t'es dit non, je vais aller sur l'autre point de vue qui est hyper, hyper galère d'accès parce que mon raisonnement m'amène à ça. Et si t'as raison, ça va être génial.
D'accord, donc ouais, il y a aussi l'idée de pousser les gens à voyager. Je reviens sur un peu, ah bah, et la communauté, et le site, et le côté cross-média, et le côté indice. C'est quoi les caps?
Ah, alors ça c'est la nouveauté du qui est sur le site depuis le début de l'aventure du tome 2. Les caps, ce sont des sortes de points que les chasseurs peuvent accumuler sur le site. En réalisant différentes actions sur le site, donc en commentant, en interagissant avec le site, en allant sur certaines pages.
Partageant sur Facebook.
et donc du coup, le fait de cumuler des points va permettre d'ouvrir des indices, donc qui sont régis en trois classes, première classe, deuxième classe, troisième classe. L'intérêt, c'est de pouvoir voilà, acheter des points, enfin acheter des indices, justement, avec les points qu'on a accumulés au fur et à mesure de la chasse. D'accord. Donc si on est assidu, si on est suffisamment stické et intéressé par la chasse, du coup, on a un peu plus de points que les autres. On peut mettre la main sur un indice un peu plus facilement et donc être sur une piste un peu plus poussée que les autres.
D'accord. Et alors, pour l'instant, il y a combien de crânes qui ont été découverts ?
Alors, actuellement, aujourd'hui, on a deux crânes qui sont sortis de terre.
D'accord.
Qui ont mené justement les chasseurs au voyage qui les ont emmenés à La Réunion.
À La Réunion, ouais.
Et donc, ils nous ont ramené des images absolument géniales. Et,
il en reste 5.
Du coup.
Et alors, est-ce que tous les crânes qu'on pouvait trouver sur la seule base du premier tome ont été trouvés?
C'est la question que tout le monde pose.
Exactement. À chaque fois, ça revient, ça.
Alors, depuis le début, on explique à tout le monde qu'ils peuvent trouver un troisième crâne avec le premier tome. Et depuis le début, on ne ment pas. S'il n'y avait pas de raison, oui, le tome 2 a pris du retard, oui, ça a été compliqué, etc. Mais les choses, comment dire, on ne peut pas réinventer ce qu'on a déjà fait. Le tome 1 était déjà présent. Je le dis de cette manière-là parce qu'on a plein de chasseurs qui continuent à poser cette question-là. Ça s'adresse à eux, ce message. Les gars, il y a des trucs que vous n'avez toujours pas décryptés et compris dans le tome 1. Ok ? C'est donc qu'on ne les a pas foutus là par hasard. Bon, mais ceci étant, ce troisième trésor, il est tout à fait accessible avec le tome 2, un quatrième également, et peut-être plus aussi, plus si affinité.
Peut-être un potentiel cinquième.
Tout est là, tout est entre vos mains, les mecs.
Et où est-ce que j'en étais ? Ouais, la confrérie, encore une fois, on parle de communauté, ça m'a fait un peu halluciner parce que j'ai du coup, il y a plein de vidéos à voir, hein, allez les voir. Donc il y a la marque de la confrérie et je me demandais d'où ça vient parce que pour le coup, c'est un truc que j'avais déjà vu. Et c'était quand j'étais au lycée, j'avais des camarades qui le dessinaient partout et qui disaient partir à la confrérie. Ah ouais. Et globalement, je sais pas trop ce qu'ils faisaient entre eux. Enfin, ils zonaient, ils squattaient des différents endroits, ils fumaient des pets. C'est...
Du coup, la marque de la confrérie, nous, c'est une sorte de comment on pourrait dire ça, une sorte de repère qui met les chasseurs sur la dernière piste, en fait.
D'accord.
Une fois qu'ils sont sur place, sur le lieu, à quelques encablures près. L'intérêt, c'est de pouvoir dire, voilà, là, vous avez un truc, vous êtes dessus, ne lâchez rien. Mm-hmm. Donc, c'est en passant par là que vous allez y arriver.
D'accord.
Voilà.
Et c'est
ça vient de quelque part.
Oui, mais c'est la marque de la confrérie. Alors là, on va repartir dans l'histoire. C'est la confrérie des frères de la côte.
On pourra y revenir en deuxième partie sur l'histoire. Hein.
Ça marche.
Parce que j'ai encore quelques petites questions avant la première pause musicale qui arrive à grands pas. Donc dans une de vos vidéos questions-réponses, vous désespériez qu'un des crânes ne soit toujours pas trouvé en disant sérieusement les mecs, celui-ci c'est loin d'être le plus compliqué. Il a été trouvé ou... visiblement, c'est un des plus compliqués. Est-ce que c'est ce fameux troisième dont vous parliez ?
Non, pas du tout. Non, celui-là, il est sorti de terre. C'est le deuxième qui est sorti de terre.
Il a été trouvé, ouais.
Il a été trouvé. Ils sont partis à La Réunion.
Ils ont ramené de belles images.
Voilà.
Et enfin, bon, je pense que vous connaissez l'énigme de la chouette d'or, hein, c'est pas à vous évidemment que je vais la faire. Pour nos auditeurs qui ne verraient pas de quoi je parle, en 1993, Max Valentin lance la chouette d'or, une chasse au trésor d'une valeur d'un demi-million d'euros, ayant toujours cours parce que personne n'a encore trouvé la solution, personne n'a trouvé la chouette. Et elle a survécu à son créateur parce que Valentin, Max, est maintenant mort. Si à vous, ça vous arrivait, donc il y a. Pas forcément, bah, pas au moment de votre mort, parce que vous en rendriez pas compte, mais mettons dans 30-40 ans, parce que vous aviez dit que elle était pensée pour s'échelonner sur une petite dizaine d'années. Mais dans 30-40 ans, il y a le 7e, ou le 6e et le 7e, il y a encore un ou deux crânes dans la nature et personne n'arrive à mettre la main dessus. C'est une consécration ou c'est un échec?
C'est joli, m'en dit.
Ouais. Vas-y, toi, je sais pas comment répondre à cette question.
Moi non plus, mais.
Non, mais j'ai l'impression que c'est les deux, en fait, à ce moment-là.
Bah, le truc qui est assez jouissif dans la chasse au trésor, c'est effectivement le jour où il y a un crâne qui sort de terre et que tous les moyens que tu avais prévus il y a 3 à 4 ans, mais que tu avais mis en place, ont marché. Tout a marché. Les gens ont capté, les gens y sont allés.
Et... Tu sais ce que je te disais tout à l'heure, fixer l'instant.
Ouais.
Et ben, ça en fait partie.
Et ben à ce moment-là, tu rentres, ça nous est arrivé deux fois, à ce moment-là, tu rentres dans une bulle temporelle. C'est une cinquième dimension.
C'est entre euphorie et peur glaciale.
Ouais.
Mais c'est complètement lunaire. Tu sais que tu as des gens que tu ne connais pas, qui viennent de vivre. Pour eux, c'est 10 fois plus parce que c'est leur aventure, mais ils viennent de partager avec toi quelque chose de hyper intime. Ils viennent de te contacter pour ça. Tu comprends pas du tout d'où ça sort. C'est toi qui l'as créé ce moment, mais c'est incroyable à vivre. Après, en plus, il y a toute l'émulation, tu leur as des gains et tout ça.
Et en même temps, à côté de ça, il y a aussi le côté de recherche qu'on suit par rapport aux questions qu'ils nous posent et aux choses comme ça. Et c'est vrai que c'est aussi jouissif de les voir un petit peu galérer et de les voir se poser des questions. Tiens, telle piste, on a envisagé ça. On fait notre petit sourire en coin, on dit rien. Et puis après, c'est pas du tout ça. Et là, on refait notre petit sourire en coin.
Donc les deux,
ouais. Non, je pense qu'il y a un côté fantasmagorique à se dire ce serait génial qu'elle nous survive comme à Max Valentin. Et en même temps, si on a fait ça, c'est...
En même temps, ça fait partie du jeu aussi.
Il y a une démarche assez altruiste quand même au fond de notre cerveau. Et donc, bah, on a envie de continuer à kiffer ce partage. On a envie... Il y a un fantasme à la fin hein, de partir à la réunion avec les gagnants. Hein.
Ah,
il y a 4,5 milliards de planqués sur l'île. Donc, l'une des idées parmi toutes les raisons pour lesquelles on fait cette chasse, c'est qu'on s'est dit, attends, ça fait 300 ans que tout le monde cherche le blé. Si on mutualisait les efforts, si on chassait en meute.
En fait, vous êtes en train de rassembler les Avengers de la piraterie avec.
C'est exactement
avec,
ça.
Avec
ça
le bouquin, idée, c'est ouais. De réunir une équipe.
C'est exactement ça.
L'idée, c'est de réunir une équipe et d'aller chercher le
mais
vrai
c'est,
trésor
c'est,
de
mais
nos
c'est tout à fait ça. On est en train d'essayer de créer le plus gros équipage de pilleurs de trésors, mais on fait ça tous ensemble.
Fabuleux.
En fraternisant.
En mutualisant.
Très bien. On se retrouve tout de suite après une pause musicale. c'était Running Wild avec leur morceau Blaze and Stone, les patrons du Pirate Heavy Metal. Bon, c'est pas grave, devait y avoir une virgule, on va faire sans. On va un peu parler en un peu plus en détail de piraterie, hein, mine de rien, parce qu'on est quand même là pour ça. Vous dites du roman qu'il raconte le véritable âge d'or de la piraterie, tel que les rois refusèrent de le voir consigné dans l'histoire. Il y a vraiment eu un révisionnisme autour des pirates?
Ouais, mais il y a du révisionnisme partout, de tout temps, à toute époque. L'histoire, c'est du révisionnisme, c'est les vainqueurs écrivent l'histoire. Et les pirates ont perdu la bataille, donc sinon il y aurait eu des démocraties qui se seraient créées dans les Bahamas et les Mascareignes bien plus tôt. Ça n'a pas eu lieu, l'Empire britannique a gagné, donc les pirates sont devenus de sombres connards. Mais c'était pas complètement le cas de tous, au final.
Et alors, tu viens de dire donc qu'il y aurait eu des républiques. Le premier tome, si je dis pas de bêtises, parle de la république autogérée du Libertalia.
De Libertalia, ouais.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est Libertalia?
Libertalia, c'était une république de mutins, plus ou moins, qui est devenue une république de pirates. Mais en fait, c'est des mecs qui étaient des Français qui étaient perdus et qui avaient peur de se faire retrouver par l'armée française. Ils sont planqués dans une baie malgache. Ils ont demandé en gros l'autorisation de séjourner là pendant quelques temps. Il se trouve qu'à cette époque-là, les Malgaches dégageaient tous les colons avec une violence inouïe, systématiquement, parce que tout le monde essayait de les envahir. Et là, il s'est passé un petit truc surréaliste avec le royaume local, et où ils ont réussi à fédérer en fait une micro-société pendant une vingtaine d'années, autour d'un trésor, autour de plein d'accords politiques, il y avait un contexte qui faisait que. Mm-hmm. Alors tout ce que je dis pendant longtemps, c'est resté une légende. On n'était pas vraiment sûr que ça ait eu lieu parce que au bout de 20 ans, il y a eu un massacre, la République a disparu assez rapidement. On a commencé à retrouver des traces archéologiques dans cette baie, parce que c'était sur une plage qu'existait cette république, cette micro-république. On a commencé à retrouver des traces archéologiques dans cette baie il n'y a pas si longtemps, et puis effectivement la légende dont tout le monde parlait avait véritablement existé.
Et donc c'est de là que venait Levasseur, le personnage central de la trilogie. Donc c'est un personnage qui a réellement existé. À quel point vous l'avez romancé? À quel point vous l'avez un peu...
Alors, c'est un personnage qui a réellement existé. J'ai coutume de dire que dans toute la trilogie, il y a à peu près 20% de romans, de scénarisation, de fiction, pour faire tenir un petit peu toute l'histoire ensemble. Dans ces 20%, il y en a beaucoup moins dans le tome 2 d'ailleurs. Dans ces 20%, j'ai été obligé de tirer un petit peu sur la vie de Levasseur pour être sûr de pouvoir le faire tenir un peu partout. Donc je l'amène à finalement mourir à 60 ans, je crois, alors qu'il a dû y passer sur les coups de 55. Je vais pas non plus exagérer comme un furieux. Oui. Ce qui fait que, pour être tout à fait honnête, j'ai pas du tout la conviction qu'il ait habité Libertalia. J'aurais même tendance à penser que non, il est arrivé un petit peu après dans toutes ces histoires-là. Mais il fallait que je puisse étirer le tout. Donc voilà. Mais voilà, il a véritablement existé. J'ai fait un travail sur les caractères des personnages assez profond pendant des années, qui m'a coûté d'ailleurs. Et donc pour être clair, le Vasseur ressemblait, je pense, assez clairement à ce que j'en ai dessiné dans le tome 1 et dans le tome 2, ouais. Comme les autres personnages par ailleurs.
Et alors, tout à l'heure on parlait de la confrérie,
ouais.
Et on s'est dit qu'on garderait l'aspect historique de cette confrérie pour plus tard, et on va en parler maintenant. Qu'est-ce que c'était que cette fameuse confrérie?
Alors, on est à une époque où les royaumes n'arrêtent pas de se foutre sur la gueule. Donc, pour faire court, quand t'as fini une guerre et que tu te retrouves sur le carreau parce que ton armée t'a pas rémunéré à la fin et que t'as eu juste le bol d'y survivre, tu te retrouves un petit peu comme un couillon sans forcément les moyens pour rentrer à la maison en Europe. Et tout ce que tu connais, c'est naviguer et tuer, comme ton père, comme le père de ton père, comme le père du père de ton père. Et il y a eu 2-3 moments dans cette période-là, fin XVIIe, enfin bref, deux trois moments autour de Nassau et de Libertalia, où ces personnes se retrouvent forban, c'est-à-dire hors du banc par définition. Ils ne savent encore une fois que flinguer et se balader en mer. Ils ne veulent que faire ça. Et ben donc du coup, ils créent une fraternité. Cette fraternité devient une confrérie des frères de la côte. Ils travaillent avec les boucaniers. Il leur faut des resellers parce que c'est des entreprises. Hein, c'est pas des branleurs qui se disent hey, on va demain il y a barbecue sur le bateau à Michel. C'est pas comme ça que ça marche. C'est les mecs.
Il y a un business.
Les mecs, voilà, ils font
s'organiser.
Les mecs, ils font du biz. Il faut que l'argent rentre. Ils savent ce qu'ils font. Hein, ils prennent même les dents en or, mais faut bien les arracher. Et donc du coup. Ils se sont établis à différents endroits. Donc, dans le tome 2, c'est à Nassau que ça s'est passé aux Bahamas, parce que il y avait des îles qui avaient été abandonnées par les Espagnols et les Anglais. Les mecs, ils les prennent. Il y a des forts, il y a des canons. Ils ont des positions défensives. Ils installent un marché de recel. Et puis, là, ça devient le centre névralgique du marché noir mondial, en fait. Et c'est pour ça que de cette confrérie de frères de la côte, les mecs, à un moment donné, sont quand même posé la question est-ce qu'on n'essaie pas de refaire comme à Libertalia? Mais là on pousse le concept complet parce qu'on sort d'une guerre et en face on a des rois qui rigolent pas, qui veulent reprendre les Bahamas, mais nous on est dans une position où on a 2000 hommes derrière nous, on peut peut-être
tenter un truc,
dire les mecs on est un pays, en fait on est une nation. Il y a un petit peu de rêve libertaire et démocratique derrière, et c'est pas ce qui est resté dans l'histoire évidemment. Mais bon, après, il faut dire tout ce qu'il y a. Il y a des chefs de grands pirates, dont Barbe Noire, qui ont été aux commandes, qui ont eu la possibilité d'eux, et qui avaient d'autres objectifs aussi, et qui avaient, qui avaient un parcours personnel. Et c'est ce parcours personnel qui a fait qu'ils sont passés à côté de la République.
Parce que oui, tu parles de libertaire. Le premier tome est donc sur la République autogérée de Libertalia. Vous appelez vous-même votre communauté camarade. C'est un truc d'anargo choco-coco, les pirates en fait.
Il y a un fond. Forcément, tu veux créer une démocratie, tu veux que tout le monde. Oui, forcément.
Macron aurait-il fait un bon pirate?
Ne te fous pas dans la merde avec cette question. Macron aurait fait un super officier de la Royale.
Ah voilà, c'est exactement la réponse que je voulais. Bon, redevenons un peu plus sérieux. L'un des personnages principaux donc du deuxième tome est Barbe Noire, qu'on connaît tous en fait. On connaît tous son nom, on a déjà tous entendu le nom de Barbe Noire, mais en fait on sait finalement assez peu qui c'est, on sait finalement assez peu ce qu'il a fait. Est-ce que vous pouvez un peu lever les mystères autour de ce personnage sans pour autant tout révéler ce qu'il y a dans le livre?
En fait c'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis vraiment concentré sur Barbe Noire pour le tome 2, c'est que à un moment donné dans tout mon travail, j'étais passionné par Levasseur et je travaillais vraiment que sur Levasseur principalement, mais il a fréquenté, il se trouve qu'il a travaillé Barbe Noire pendant un certain temps, et à un moment donné je me dis mais putain, c'est dingue, tout le monde le connaît, personne sait qui c'est, personne peut dire même juste c'est quoi son nom.
Edouard Teich.
Mais il est inventé, il sort de nulle part ce nom, et on est dans une période où en sortant de guerre tous les registres sont enfin bien tenus. Donc tous les mecs dont je parlais tout à l'heure qui ont été licenciés sans solde, on a leur blase sur des registres. Mais pas Teich. En revanche, c'est un putain de soldat et tout le monde en est témoin. Enfin, tous ses contemporains en sont témoins. Et donc non, c'est une histoire très très complexe, à mi-chemin entre Gladiator et le Masque de Fer, en fait. Et c'est ça qui m'a fait vriller. Je me suis dit d'accord, là, il faut complètement s'engouffrer dedans.
D'accord. On va refaire une petite pause musicale et on reviendra après avec une chronique sur les femmes dans la piraterie. There's a county map to go in the wall of hurling, stick in the shinty ball to break the brack, the crack and all, let's call it an Irish pub. Caffrey's hard, Kilkenny, a pub, the Guinness, pint, a cabbage crap, the eye, don't wanna be paddy trap, we'll call it an Irish pub. While I'll be fucked, I swear upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, I'll often burst your filthy mug if you draw one more shamrock in me beer.
was an Irish pub. The quick one in the filthy pub, the patent glass across the lug of the lady. Oh, the dirty dog we got as an Irish pub. It's over to me.
And over to you.
We'll skip along the avenue.
And who the hell is running through?
We got us an Irish pub. While I'll be fucked, to swear upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked, you'll offer first, you filthy mug. If you drop one more shot, I'll give me beer. They can pick the fights, we'll call it an Irish pub. Plastic cups are polished for all. We'll hose the blood right out the door. I'll let the knuckles back for more. We've got us an Irish pub. While I'll be fucked, you swear upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. While I'll be fucked, you'll offer first, you filthy monk. If you draw one more shot, I'll give me beer. Morning, Gary on, kiss me, I'm Irish. Molly Malone, a bunch of slanch, a punk, my home. We got us an Irish pub. Split the punches, trick the willows, strike me up. The rakes are mellow, the lift, he never runs so shallow. We got us an Irish pub. While I'll be fucked, you swear upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. While I'll be fucked, you'll offer first, you filthy mug. If you drop one more shot, I'll give me beer.
C'était The Rum Jacks, an Irish punk song ou pub song, je ne sais plus.
Garçon, deux bassistes doubles et trois tripes.
Pour un pic en bière, c'est moitié-moitié.
L'apéro, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Rafraîchissant.
Oui.
Et on va maintenant retrouver notre féminazgule préférée qu'on adore entendre, que ce soit dans Thelma et Louise ou dans Chablis Hebdo.
Oui,
elle
moi.
N'a pas pu s'empêcher de venir faire du woman's planning pour parler de pirateries et des femmes.
Est-ce
dont
que vous
on
m'entendez
a...
C'est la question assez essentielle. Que
on t'entend, Charlotte. Peut-être tu peux mettre le son un peu, ton micro un peu plus fort, parce que oui, Charlotte,
fort.
En plus de faire une chronique, réalise également sa première réalisation. Oh. C'est impressionnant à
et
tel
je
point.
Et je grince des dents.
Et tu grinces des dents parce qu'on n'a pas parlé assez de femmes, j'imagine.
Non, exactement.
À ton goût. Donc tu vas rétablir un peu la vérité historique sur les femmes pirates, c'est ça?
Exactement, Jacques. J'ai même une théorie là-dessus, si
ah,
tu vois ce que je veux dire.
Je vois absolument
Est-ce
ce que tu veux
sais,
dire.
Est-ce que vous savez pourquoi les femmes sont absentes de l'histoire avec un grand H? Pourquoi on attribue les grandes découvertes, les exploits, les victoires uniquement à des hommes? Pourquoi nous sommes constamment ignorés, méprisés, oubliés? C'est pas qu'on est nul ou trop peu ambitieuse ou trop occupé à cuisiner un petit filet mignon pour quand Mamour rentrera du boulot. Non, rien de tout ça. Tout ça, messieurs, c'est parce qu'on est meilleur que vous. On communique mieux, on gouverne mieux, on innove mieux, on simule pas l'entorse toutes les deux minutes sur un terrain de foot, et quand on simule l'orgasme, on le fait bien. Et ça, ça vous fout les boules.
Oui, alors, t'as des preuves de ce que t'avances?
Et comment? Attends, je suis journaliste, je suis venue vous apporter des faits concrets. Mais comme je me suis, comme d'habitude, emparée d'un sujet que je ne maîtrise absolument pas, je compte lâchement sur nos invités pour me fact-checker discrètement si je sors une grosse connerie. Parce que Jacques, tu m'as dit, viens nous parler de femmes pirates. Les femmes, ça me connaît. Par contre, les pirates... Mon savoir sur le sujet s'arrête à de vagues souvenirs du capitaine Crochet, Barbe Rousse, Barbe Bleue et Rackham le Rouge. Je sais pas d'où je sors ce nom, mais je l'ai déjà entendu. C'est pas étonnant. Les hommes ont tout fait pour nous exclure de ce domaine. Dès qu'on s'approche d'une mer, l'océan, patadaron, les rôles possibles pour une femme sont limités. Amante éperdue qui attend patiemment le retour de son homme sur le port. Prostituée. Ou sirène coincée entre deux méduses sur un rocher pérave à chantonner du Francis Cabrel pour espérer capturer un cœur de pirate. Je ne sais pas si vous l'avez. Six mères, les mecs. Paraît-il que sur un bateau, on porterait malheur. On créerait la zizanie entre les hommes avec nos corps lubriques. Résultat, pour monter à bord, les rares femmes pirates de l'histoire étaient obligées de se travestir en hommes.
Mais ça n'en a pas empêché certaines de prendre le pouvoir et de marquer l'histoire de la piraterie.
Ok non, Jacques, elles ont même si bien dominé les océans qu'à côté, David Jones, c'est juste un vieux poulpe périmé avec un tricorne de chez Jouet Club.
Vous êtes sans nul doute le pirate le plus pitoyable dont on m'ait parlé.
L'histoire des femmes pirates, c'est l'incarnation de la badasserie. Prenez Anne Dieuleveut, par exemple. Flibustière bretonne et criminelle au XVIIe siècle, elle est déportée sur l'île de la Tortue, se marie avec un navigateur qui meurt, en épouse un deuxième qui meurt aussi. Oui, alors, il y a beaucoup de maris médiocres qui décèdent dans ces histoires, donc pour pas s'encombrer, on va tous les appeler Victor, ok ? Donc, elle devient pirate, écume les mers et provoque en duel Laurent de Graff, un grand pirate des Caraïbes. Le mec pisse littéralement dans son froc, déclare que son honneur l'empêche de se battre contre une femme, la demande en mariage et devient Victor numéro 3. Petite promotion pour Anne qui va devenir la femme la plus redoutée des océans et la plus admirée de ses matelots qui vont la considérer comme un porte-bonheur plutôt qu'un signe de malheur à bord. Mais il n'y a pas qu'elle. De l'autre côté de notre belle Méditerranée, on parle encore aujourd'hui de Saïda Alloura, la reine pirate. Son nom signifie littéralement noble dame libre et indépendante et femme souveraine ne s'inclinant devant aucune autorité. Donc en termes de surnom, on est déjà pas mal. Au XVIe siècle, elle s'allie à Barberousse, rien que ça, pour défendre la Méditerranée contre les sales envahisseurs catholiques européens. Elle pille tous les bateaux, demande et obtient des rançons folles pour les prisonniers qu'elle capture. Bref, elle se fait de la thune. Tellement de swag que le roi du Maroc lui-même, un autre Victor avec une couronne sur la tête, va la demander en mariage. Hop, grosse promotion pour Saïda, qui empêchera tout de même toute sa vie son mari de prendre possession de Tétouan, sa ville d'enfance.
Mais en fait, leur stratégie, c'est pas juste de se marier avec des hommes puissants ?
Et pourquoi changer une recette qui marche ? Tant qu'on arrivera à vous persuader qu'on vous épouse pour votre joli minois et votre énorme... Bref.
Canon ?
Exactement. C'est pas fini. Les femmes pirates ont porté leurs ovaires jusqu'en Chine. Vous vous dites que derrière chaque grand homme, il y a toujours une femme ? C'est que vous ne connaissez pas Qing Shi, alias Madame Qing. Avec elle, l'adage c'est plutôt « derrière chaque homme moyen, il y a une femme incroyable qui attend juste qu'il crève pour montrer ce qu'elle sait faire ». Prostituée, capturée par une bande de pirates, que fait Qing Shi ? Technique du joli minois, elle use de ses charmes et épouse Victor, le chef des pirates qui l'ont capturé. Qui meurt, décidément, ils ne sont pas résistants à cette époque-là. Avant de clamser, il avait 400 navires et près de 40 000 hommes, ce qui est déjà pas mal. Madame Qing reprend les rênes de l'affaire. 3 ans plus tard, on est passé à 80 000 hommes et 1 800 navires. Autant vous dire que ça fait pas mal de rafiots à compter sur un boulier. Ensuite, elle fait son truc de pirate, attaquer, piller, voler, kidnapper. Tellement bien qu'on la surnomme la terreur de la Chine du Sud. Le gouvernement chinois pisse son froc, ça aussi c'est un réflexe de l'époque, lui propose l'amnistie, qu'elle accepte. Elle part donc avec sa thune et finit sa vie tranquille sur une île paradisiaque avec un compte en banque digne de celui de Liliane Bettencourt. Plus thug life qu'un clip de rap de la West Coast, tu ne peux pas test.
Et attends, à aucun moment tu vas nous parler de Marie Red, The Marie Red ?
Non, parce que j'ai l'esprit de contradiction. Mais si tu veux absolument parler des incroyables piratesses qui ont épaulé Jacques Rackham, alias Jacques le Rouge, alias...
Jacques le Rouge ?
Rackham le Rouge, pardon. Ah, oh, ça va. Alias The Victor de l'histoire de la piraterie, je préfère mentionner Anne Bonny.
Ah.
D'abord parce que c'est le genre de nana qui divorçait sans pression au XVIIIe siècle et surtout parce qu'elle a prononcé la punchline féministe la plus stylée de l'histoire. Déjà, elle largue son ménagement Victor numéro 1 pour épouser Victor numéro 2. Quelques années plus tard, donc Victor numéro 2, donc Rackham le Rouge. Quelques années plus tard, elle va assister à la chute de son mari face aux troupes anglaises. Déjà, les textes d'époque racontent qu'elle et Marie Red étaient les seules à se battre férocement au moment de la bataille, le reste de l'équipage des hommes étant trop bourrés pour tenir leur épée convenablement. Triste métaphore de ma vie sexuelle. Les Anglais gagnent et rentrent aux Bahamas pour pendre tout ce beau monde. Pas con, Anne Bonny et Marie Red font croire qu'elles sont enceintes pour éviter la potence. Un peu comme moi quand je gonfle le bide pour avoir une place assise dans le métro. C'est une technique qui marche très bien. Quand la corde passe autour du cou de Victor, enfin Jack Rackham, Anne Bonny se tourne vers son mari et lui dit « Je regrette de vous voir dans un tel état, mais si vous vous étiez battu comme un homme, vous n'auriez pas à mourir comme un chien. »
Ça se prononce irrévérencieux.
Voilà, ça c'est un pirate. Et avoir enterré tous nos modèles féminins, avec quoi on se retrouve aujourd'hui en 2018 ? Jack Sparrow, le pirate le plus pété de l'histoire, tellement maladroit qu'on dirait qu'il a été amputé de l'oreille interne. Et puis, maquille-toi proprement, mais quitte à se travestir, fais le bien. J'ai tenté d'aller au-delà et j'ai tapé « pirate 2018 » dans Google. Là, je tombe sur le Pirate Summit, le sommet des pirates. Je me dis, oh, une rencontre de pirates, une sorte de Hellfest de boucanier, ça doit être super classe. En fait, pas du tout. Le Pirate Summit, c'est, je vous l'ai traduit directement, le meilleur endroit pour rencontrer des fondateurs de start-up. On s'est fait truster la piraterie par la Start-up Nation, les mecs. Je nous donne 6 mois avant de voir Macron avec un perroquet sur l'épaule pendant ses allocutions officielles. Jacques, moi je te le dis, il y a clairement urgence à réhabiliter les vrais pirates, hommes comme femme.
Merci beaucoup, bravo, Charlotte, bravo pour cette chronique, tout en réalisant. Et tu as été fabuleuse dans le lancement de tes sons.
Oh, c'était merci, incroyable. Derrière mon micro.
Un petit coup de fact-checking de notre équipe, donc de capitaine. Elle n'a dit aucune bourde. Je crois que Anne Bonny est un des personnages principaux du roman, du deuxième tome.
Ouais, il devait s'appeler la fille aux cheveux rouges à la base.
Oh.
Donc non, elle a pas du tout dit de conneries, bien au contraire.
Et donc l'homme à la barbe noire, c'est pour vendre plus d'exemplaires parce que la fille ça vend moins que l'homme, c'est ça?
Ouais, exactement. Non, j'avais trop travaillé sur Barbe Noire pour le laisser de côté. Mais non, c'est marrant parce que elle, je vais faire un spoil, mais tu me diras, je vais mettre 15 ans à le sortir, donc c'est pas grave. Dans le tome 3
Ah ouais, le mec se lance tout de suite, quoi.
Ouais, non, le mec s'auto-vanne maintenant, c'est bon, il est rodé.
Le teasing.
Non, elle. Bon, bref. Non, Anne Bonny était la.
Dans le tome 3.
Non, parce tu vas sortir que j'étais trop parti.
Tu vas la lancer.
Arrête tes conneries.
Tu vas nous lâcher une exclue que tu ne sortiras nulle part ailleurs que sur Radio Campus Paris.
Hein. Je peux pas. Ils vont péter un câble avec le dernier chapitre sinon. Non. parce que tout ce que t'as dit est vrai. C'est terrible l'histoire d'amour entre Jack Rackham et Anne Bonny. En fait, si tu veux, les histoires de pirates, et j'y suis arrivé vraiment naturellement et même pas volontairement, sont liées à des histoires d'amour hyper souvent. Et dans le cas d'Anne Bonny et de Jack Rackham, c'est ouais, ça fait mal au cœur, parce que c'est vraiment une histoire d'amour adolescente, clairement, qui part en couille à une vitesse, mais pour une raison toute con. Et c'est celle que tu dis, c'est que la nana se pointe devant Jack Rackham, qui est en gros une sorte de Jack Sparrow. Elle se dit, mais c'est un pirate génialissime. Le mec va devenir capitaine, donc elle va le suivre. Elle est juste tellement meilleure que tous les mecs qui étaient sur cette île réunis. Et puis ça va se démontrer, en fait. Donc le type derrière, il est à la ramasse.
Elle a quand même supporté la présence de Mary Red, qui était l'amante de Jack Rackham.
Alors, en fait, c'est l'inverse. En fait, c'est l'inverse.
D'accord.
En fait, c'est l'inverse. C'était sa meuf à elle. Et c'est Jack qui a fermé sa gueule.
Okay. C'est donc on est dans un trouble.
On est dans un trouble.
On est dans un trouble et on est dans une histoire de sororité lesbienne entre femmes pirates.
Ouais, totalement.
Moi là,
totalement.
Je plane à 10 000.
En même temps, si tu veux, c'est pas une histoire de. C'est même pas lesbien, c'est que l'homosexualité est présente partout dans la piraterie. Dès mon tome 1, je pars sur une bromance parce que j'y suis pour rien, c'est comme ça. Ma bromance me tient mes 3 tomes parce que mes 2 héros étaient. Était une love, quoi. Et j'en ai plein d'autres comme ça, dont le grand Charles Vane, l'épouvantable Charles Vane. L'épouvantable Charles Vane, son second, c'était son mari, Robert Deal. Donc, et dans le cas de Jack Rackham, Marie et Anne, ouais, on est dans un trouple fantasmagorique au début, en tout cas.
Donc il n'y a pas que la vision qu'on en a aujourd'hui qui est romantique chez les pirates.
Pas du tout.
C'est la fin donc de cette dernière partie. On va écouter une dernière petite pause musicale avant de se retrouver pour un quiz que nous a concocté notre cher ami Simon. On va voir si vos connaissances sur les pirates au cinéma sont au niveau.
Et une petite pause musicale féminine.
Féminine.
Ese gritalito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí. Sueño que estoy andando por un puente que la acera.
Mira, 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 mira.
Cuanto más quiero cruzarlo,
va.
Más se mueve y tambalea. Malamente.
Así sí.
Malamente.
Malamente.
Malamente. pensarte malamente. Sì, sì, malamente.
Malamente de Rosalia, un morceau qu'on aime tous particulièrement dans le studio. Dernière partie de notre émission sur les pirates, Simon, qui aurait aimé être avec nous ce soir, mais qui ne pouvait pas, nous a quand même concocté un petit quiz sur les pirates, et notamment les pirates au cinéma, parce que c'est un féru de cinéma. Charlotte, si tu veux participer, bien entendu, tu es
là.
Bienvenue. Alors, parmi ces titres de films de pirates, lequel existe vraiment ? Le Vautour des Antilles, avec un vautour qui fait le vautour. Le Vagabond des Mers, avec un vagabond qui vagabonde. Le Corsaire Noir, avec un corsaire noir. Ou la réponse D, le Fainéant du Pôle Emploi, avec un chômeur qui veut voler l'argent des Français en se tournant les pouces.
Connaissant Simon, j'ai envie de dire que le dernier est faux, mais je sais pas, avec le cinéma d'auteur français en ce moment.
Mais ce serait pas un film de pirate du coup.
Putain,
donc
sérieux,
je répète, le Vautour des Antilles, le Vagabond des Mers, le Corsaire Noir ou le Fainéant du Pôle Emploi.
Allez, Vagabond des Mers.
Le Vagabond des Mers.
Le Vagabond des Mers, exact. Film de William Quigley, d'après le roman éponyme de Robert Louis Stevenson, qui avait aussi écrit L'île au trésor, je crois, sorti en 1953 avec nul autre qu'Errol Flynn dans le rôle principal. C'est un héritier fuyant l'Écosse après la rébellion jacobite. Très bien. Lequel de ces films de pirates fait un parallèle avec la guerre menée par l'Angleterre contre... Oh là là, mais Simon, c'est quoi ces questions ? Fait un parallèle avec la guerre menée par l'Angleterre contre l'Allemagne nazie. A. Le Cygne Noir. B. Captain Blood. C. L'Aigle des Mers. D. Captain America.
Ah non, mais attends, ça marche toujours avec Captain America.
c'est pas un film de pirates non plus.
Oui, mais...
Est-ce qu'à un moment, il prend un bateau, quoi ?
Captain America ?
Ouais,
je sais. Non, je crois pas.
je regarde pas les films de super-héros. Mais...
Donc, Le Cygne Noir, Captain Blood, L'Aigle des Mers ou Captain America ?
L'Aigle des Mers, non ?
L'Aigle des Mers.
Exactement. Film de Curtis, de Michael Curtis, sorti en 1940, avec encore une fois Errol Flynn. Hein, on remarque une certaine redondance. Chez Simon, la tentative d'invasion de l'Angleterre par l'Espagne peut rappeler la lutte contre l'Allemagne nazie en 1940 lors de la bataille d'Angleterre.
Ah bah voilà.
C'était ça.
Laquelle de ces adaptations de L'Île au trésor de Robert Louis Stevenson n'existe pas ? L'île au trésor des Muppets, adaptation de l'île au trésor avec des Muppets. L'île au trésor pluriel, c'est-à-dire trésor avec un S. Adaptation française avec Gérard Jugnot dans le rôle de Long John Silver. Ostrov Sokolovich, l'adaptation soviétique. Ou L'île au trésor, qui est tout simplement une adaptation de la 20th Century Fox.
Eh ben, je crois que c'est la 20th Century Fox qui l'a jamais faite.
Exactement, ouais. C'est la 20th Century Fox qui n'a jamais fait. Ce qui me donne très envie.
Faire attention.
Ce qui me donne très envie de découvrir Ostrov Sokolovich, parce que la version. Parce que je vois pas comment l'idée d'un trésor peut s'incarner dans un régime soviétique où la propriété est péché.
Avant ça, moi je vois pas comment l'idée d'un Long John Silver et d'un trésor peuvent s'incarner dans Gérard Jugnot.
Oui, mais le problème.
Quand c'est arrivé ce truc-là, je me suis dit. Non, pourquoi
Personne n'y croit.
Un lapin, ça marche mieux.
Ouais, non, mais Gérard Jugnot, hein, pourquoi pas Lequel de ces cinéastes a déjà réalisé un film de pirate ? François Truffaut, Roman Polanski, Alfred Hitchcock et Danny Boone.
Donc tu te fous de notre gueule.
C'est pas moi qui me fous de votre gueule, c'est celui qui a fait le quiz.
Donc Simon, tu te fous de notre gueule.
Pensez aux auditeurs qui s'y connaissent pas forcément en pirate, ils vont apprendre plein de choses.
Pirate de Polanski,
c'est un grand
classique.
Et ben moi je l'ai pas vu par
c'est
exemple.
C'est vrai.
Mais oui.
Et t'as vu des Pirates des Caraïbes?
Ouais.
Et voilà, et on est à quel étage?
Pour ma défense, les réalisateurs des différents Pirates des Caraïbes n'ont violé personne. Je balance ça comme ça.
Non, alors, ouais, mais non.
Ah, ouais, alors, merde, alors Roman Polanski a réalisé Pirates, film franco-tunisien sorti en 1986.
Oh, il est tout rouge.
Bon, alors, on va rouge. Pas enchaîner sur ça, mais... Non, non. S'il y a un film de pirate à voir, c'est celui-ci. C'est, il est juste incroyable. Tout y est dès la première minute. On a mis vraiment. Quand je dis tout y est, c'est-à-dire que l'univers de la BD y est, l'univers du roman, l'humour, tout y est. On en sort. On retourne en enfance avec ce film.
Regardez Pirate ce soir. Et bon, une question girls power. Laquelle de ces actrices a déjà incarné une femme pirate à l'écran ? Zoé Saldana. Nathalie Portman, Julia Roberts, cœur de pirate, car même le Québec a droit à ses héroïnes.
Moi, je veux tellement Julia Roberts.
Zoé Saldana.
J'en sais rien.
Alors là, je sèche. Non.
Eh bien, bravo à Eve. Donc Eve qui a accompagné Charlie, qui a donné la bonne réponse.
C'est
cœur de pirate. Non, pas du tout. Zoé Saldana qui joue Anna Maria dans le premier Pirate des Caraïbes. Donc ça remonte à maintenant, il y a un bout de temps. Mais c'est oui, je me souviens bien, c'est elle qui dit « Tu m'as volé mon bateau », il dit « Emprunté ». Je connais très bien les Pirates des Caraïbes.
Putain, mais toi aussi
merde.
Mais les gars, mais j'ai vu Pirates de Polanski.
Ok. Voilà.
J'ai vu Pirates de Polanski. Mais ouais, j'avais 8 ans quand c'est sorti, encore une fois, Pirates des Caraïbes.
Non, mais j'ai pas tapé dessus, attends, je me suis même tapé Crossbones avec... c'est sur Barbe Noire. C'est une série terrible.
C'est pas Black Sail aussi.
Black Sail était diffusé il y a pas très longtemps et la saison était vraiment bien. Et ils ont fait des trucs super cool, c'est juste qu'ils ont essayé de raconter, en gros ce que je raconte dans le tome 2, mais ils sont partis en bullshit.
D'accord. Bon alors, regardez la première saison de Black Sail. C'est déjà la fin de cet apéro spécial pirate. Merci à Charlie et merci à Sax d'être venu nous présenter le deuxième tome du Trésor de Levasseur, L'homme à la barbe noire, qui sort donc demain.
Si je dis pas de bêtises,
donc allez le choper. Je remercie particulièrement Charlotte qui a fait sa première réalisation.
Merci Charlotte, bravo.
C'était un sans faute, c'était magnifique. Et à demain pour le retour de Chablis, pour un Chablis d'été. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Radio Campus Paris.